Bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline Bavister et Elise Lines.
Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres sur le site mix96.com et sur vos plateformes de podcast habituelles.
Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille tout collé et sur Instagram Bouche à Oreille UK.
Ouvrez vos oreilles!
Ce soir, nous parlons de chant avec notre experte en musique Blandine que l'on ne présente plus. Et nous avons l'immense plaisir de recevoir au studio Véronica Chacon, mezzo-soprano et illustratrice entre autres, originaire de Genève en passant par Bogota, bonsoir, et Judith Charon, pianiste, soprano et compositrice originaire de Paris. Bonsoir,
bonsoir
Judith. Alors toutes les deux se sont installées à Londres depuis de nombreuses années et croquent à pleines dents la scène musicale de la capitale. Même le confinement n'a pu avoir raison de leur passion, puisque pour le plus grand plaisir de leurs voisins respectifs, elles ont chanté du haut de leur balcon. Les voici avec nous pour partager leur parcours et nous faire découvrir leurs projets en cours, bien sûr. On est super contentes de vous avoir dans notre studio virtuel, on va dire.
Bonsoir les filles.
Bonsoir.
Ah oui, un vrai plaisir.
Alors, on va commencer doucement, hein, comme on le fait sûrement dans nos entretiens. D'où vous est venue la passion pour le chant? Alors, on va peut-être commencer avec Judith.
Écoutez, moi je suis née dans une famille musicienne. Donc, mon père était chef d'orchestre, ma mère était chanteuse. Alors, je crois que j'ai appris à chanter avant même de parler. Et la passion, elle a grandi avec mes centimètres. Non, j'ai toujours chanté. Dans ma famille, on chante beaucoup, on fait beaucoup de musique. Le piano était un endroit où on se retrouvait tous tout le temps. Donc la passion était un peu naturelle dans ma famille.
D'accord. Et Véronica, aussi une famille de musiciens ou...
Alors oui, maman musicienne professionnelle parce que professeure à l'école Jacques Dalcroze. Très connue en Suisse, je ne sais pas, à Londres ou en France, peut-être un petit peu moins. Mais du coup, mise sur scène à 3 ans, alors évidemment, ça aide un petit peu. Et puis, vous avez mentionné le crochet par la Colombie, par Bogota. J'ai un papa qui est à moitié colombien, donc il y a aussi dans la culture de ce pays une grande tradition musicale. Donc, avec un côté plus instinctif, il ne sait pas lire les notes, mais il joue de n'importe quel instrument à cordes. Donc voilà, j'ai un peu les deux côtés, un peu autodidacte et formation plus classique du côté de ma maman. D'accord. Mais depuis toujours, un peu comme Judith, hein, depuis toujours.
Donc en fait, pour vous, c'était un peu une évidence. J'allais vous poser la question de savoir est-ce qu'il y a eu un tournant qui vous a fait décider d'en faire un métier, mais visiblement non, c'était une évidence pour vous deux.
Je crois qu'on a quand même, à un moment donné, choisi le chant. Je crois qu'on a choisi, enfin, en tout cas, je parle pour moi, mais je suis sûre que Véronica, le moment où, où j'ai réalisé que le chant devait faire partie de ma vie, que je ne pouvais pas faire autre chose.
D'accord.
La musique va donc faire partie vraiment de ma vie et j'en ai envie à mon métier.
Et là, on commence à paniquer un peu.
Là, on s'accroche. Là, on se dit, bon, c'est parti.
Mais d'abord,
et c'était à quel moment? Vous étiez encore jeune ou...
Enfin, c'est les parents qui paniquent d'abord, j'ai un peu l'impression. Parce que moi, évidemment, avec la famille de musiciens, c'était surtout le conseil de dire choisis-toi quand même un métier sérieux avant de penser à d'autres choses. Et c'est plus je crois que c'est la voix qui m'a choisie avant que moi je la choisisse. Mm-hmm. Elle m'a attrapée par le bout du nez et le bout du cœur.
Et du coup, on ne peut pas s'échapper, en fait.
Non. Ah ben non, parce qu'on est l'instrument, n'est-ce pas, Judith?
C'est comme les poumons qui respirent.
Ouais.
C'est une évidence. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette... je ne sais pas, dans cette passion, dans ce métier, dans cette vocation? Voilà, je vais parler de vocation.
Moi, c'est le partage. C'est la rencontre humaine, et les collaborations que je fais avec d'autres artistes, le partage avec le public, avec des gens extraordinaires. Sur des émotions. Enfin, je trouve qu'on a énormément de chance de pouvoir se rencontrer sur quelque chose d'essentiel, quelque chose de très authentique. Et ça, c'est une grande grâce qu'on vit tous les jours, je trouve.
Je rejoins tout à fait Judith là-dessus. Avec mes propres mots, ça sera plutôt, je parlerai de connexion, mais finalement c'est exactement pareil. Mmh. C'est cette connexion extrêmement spéciale, qu'on soit devant une personne ou parce qu'on montre un exercice à un élève ou devant une classe ou devant une salle de concert. Il y a ce truc, cette espèce d'attache où la voix, ça vient cet élément de l'âme. Hein. On dit que les yeux sont le reflet de l'âme et je pense que la voix est un autre prisme de cette âme. Donc, c'est très, très spécial. Et ça peut être tellement intime. Ouais. Tellement intime.
Et c'est vrai qu'en tant que, bon, moi, je ne chante pas, mais c'est vrai qu'en tant que public, donc, par exemple, quand on était venu au concert des Fauristes et on a vu Judith avec ce magnifique solo. C'est vrai qu'il y a une communion entre bon, la chef d'orchestre, le chœur, mais aussi le public. Donc, j'imagine que si nous, on le ressent en tant que public, pour vous, en tant que, en tant que choriste, chanteuse, ça doit être encore plus fort. Mouse fois 100.
Il y a un peu tous les petits liens invisibles entre le chef de chœur, son chœur, le chœur, les musiciens, le hautbois, la soliste, la chef de chœur, et tout ça, c'est envoyé au public.
Oui, tout à fait. On sent vraiment, il y a une alchimie, c'est magique. C'est magique. Et alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous déplaisent? Parce que bon, il y en a peut-être dans ce que vous faites.
Ou les choses un peu plus dures, peut-être les challenges de la vie de musicien.
Ah ben je trouve que ce métier est merveilleux et à la fois difficile parce qu'il est désarmant. C'est que plus on le fait, plus on est désarmé, plus on se vulnérabilise, plus on s'ouvre. Et que c'est pas facile tous les jours de s'exposer dans cette authenticité, d'avoir c'est quand même un grand chemin d'exigence. Quand on est chanteur aussi, on prend beaucoup soin de sa voix. Enfin, en tout cas, moi, je prends beaucoup soin de mon corps, de garder une certaine qualité de voix. Ça passe par une grande discipline de vie, je trouve, pour moi en tout cas. Une discipline émotionnelle, physique, mentale. Et puis l'insécurité de jamais savoir si on va pouvoir chanter le lendemain, de faire confiance à la vie. Ça, c'est un vrai apprentissage. En tout cas, pour moi, ça l'est.
Alors... pour moi, j'ai mentionné tout à l'heure le fait que c'est la voix qui m'avait choisie. Mmh. Et du coup, ce que mentionne Judith, bien sûr, je le connais aussi. Donc, l'hygiène de vie, l'hygiène, ça passe par l'alimentation, les heures de sommeil, l'hygiène mentale et émotionnelle, on est bien d'accord. Mais comme le cheminement était tellement long dans cet apprentissage de soi... je dis pas que maintenant il n'y a plus aucun problème, mais je pense avoir mieux intégré, c'est un des merveilleux bénéfices de vieillir, c'est que du coup, ça fait partie de moi. Et oui, on s'assagit. Et moi, j'ai à chaque fois une grande reconnaissance que la voix soit là. Comme disait Judith, on ne sait pas si on va pouvoir chanter demain. Et moi, j'ai pris l'habitude, on avait le même maître à chanter au départ avec Judith. Je crois que c'est lui qui disait, c'est la voix, tu ne devrais pas dire ta voix, c'est la voix. Et j'ai gardé ça de lui. Et je dis à mes élèves, on doit se préparer comme on se prépare à recevoir quelqu'un pour le thé. On est responsable de quoi? D'avoir fait le ménage à la maison, d'avoir préparé le thé, l'eau est chaude, les feuilles sont prêtes. À la rigueur, des petits biscuits, un petit gâteau, c'est sympa. Mais l'invité peut ne pas sonner à la porte. Mmh. Voilà. Et du coup, oui, je vais dans le même sens que Judith. Le lâcher prise est primordial. Mais du coup, c'est une magnifique, magnifique leçon de vie. On devient très, très philosophe, je pense.
Et très humain.
Oui.
C'est drôle en vous écoutant parce que pour les profanes, hein, pour les gens qui nous connaissent pas forcément la discipline que cela requiert, ça rappelle un peu les athlètes. Donc en sport, et bon, il y a une forme d'art à laquelle je pense qui est entre l'art et le sport, si on pense à la danse, effectivement, l'outil, c'est notre corps, notre voix, et donc il y a des y a des impondérables, on se casse la jambe ou on est beaucoup plus fragilisé et ça permet de rester humble. Et en fait, c'est ce que j'entends dans vos témoignages, c'est que vous faites tout ce que vous pouvez de votre côté. Mais il y a toujours une certaine incertitude, une fragilité de se dire « Ah, mais et si ?» Et on n'est pas forcément toujours aux commandes. Est-ce que ça reflète un peu ce que vous ressentez ?
Ben moi, je pense que c'est inhérent à l'être humain. C'est quelque chose de normal. C'est notre société qui veut qu'on soit toujours au taquet, qu'on soit toujours au top, qu'on soit toujours super. Mais c'est en ça aussi que l'instrument qu'est la voix est un instrument merveilleux. C'est que on ne peut pas tricher. Ouais. On revient à ce qu'on peut faire. Et puis, il y a bien un moment, on ne peut pas. Et puis, ce n'est pas grave. Ça fait partie du parcours.
Ouais. On est presque dans la philosophie, là. C'est fantastique. Alors, si on revient à vos parcours individuels, on va dire. Donc, on a bien compris qu'au départ, vous n'étiez pas en Grande-Bretagne. Alors, qu'est-ce qui vous y a amené ? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et de
votre formation musicale ? Parce que vous êtes tombées dans la marmite toutes les deux quand vous étiez petites. Mais comment est-ce que cette potion magique a grandi et comment est-ce que vous êtes devenues les deux que vous êtes ? C'est...
La formation et la déformation, vous voulez tout ?
C'est ça.
Ah ben, moi j'ai été catapultée hors de ma vieille Genève. Je pensais passer une vie bien, bien tranquille, bien suisse, vous savez, bien reposante, lentement. Et c'est la vie qui en a décidé autrement. En fait, on m'a proposé d'intégrer la Guildhall School of Music and Drama. Par une petite porte, j'ai pas fait les auditions officielles et ça a bien marché dans un premier temps. Ce qui était surtout positif dans cette expérience, c'est que j'ai rencontré le maître de chant, Michel Valla, pour ne pas le nommer. Et ça a été le début d'une grande, grande période. Avec très intéressante, on va dire, avec beaucoup, très très riche, avec beaucoup de choses à vivre et pas toujours évidente en fait. Pas toujours évidente, et c'est pour ça que je disais en rigolant, je parlais de déformation parce que c'est un peu comme travailler une argile. On déforme un peu la matière avant de laisser la terre prendre la forme qu'elle est appelée à prendre. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Mais je dirais, il y a eu ces parcours, école, prof. Toutes ces rencontres ont semé des choses, mais sans fausse modestie, je pense que c'est toute seule que j'ai fait germer ce qui devait sortir, en fait. Mm-hmm. Alors, il y a toujours des coachs à droite, à gauche, mais le moment où la voix a trouvé le fil, a trouvé le rail, c'était Véronique avec Véronique, et ça, c'était... Pardon, Véronica. oui, c'est important de le dire quand même.
Mmh. Et Judith, alors, qu'elle est
Moi, j'ai c'est un peu le même parcours que Véronica. Moi, j'ai commencé, donc mes parents avaient une école de musique, donc j'ai fait une école un peu alternative jusqu'à mes 16 ans où je travaillais le matin, je faisais l'enseignement scolaire et la musique l'après-midi. Et après, je voulais faire carrière, je voulais absolument chanter. Mes parents, étant musiciens, connaissant la difficulté du métier de chanteur, et c'est vrai que le métier de chanteur, on met 10 ans à l'apprendre. Quoi. Il faut que le corps mature. Et donc, ils m'ont demandé de faire, expressément de faire des études. Donc, j'ai commencé à faire des études de lettres. Et parallèlement, je suis rentrée au Conservatoire de Paris. C'est une formation de jeunes chanteurs qui venait juste d'ouvrir. Et moi, j'avais une grande, grande, grande passion pour l'opéra. Je voulais absolument faire d'opéra. Dès que j'allais à l'opéra, j'avais la chair de poule. Je trouvais ça extraordinaire que des petits bouts de femmes, enfin, on est quand même petits, quoi. Pouvoir sortir un tel son gigantesque, d'être aussi ouvert, c'était mon rêve. Donc, il n'y avait pas d'école d'opéra en France. Mmh. Et j'ai rencontré effectivement le même prof que Véronica à ce moment-là, qui m'a fortement invitée à venir à Londres et me préparer pour des écoles d'opéra. Chose que j'ai faite. Et puis j'ai beaucoup beaucoup travaillé. J'étais passionnée par la voix, par le, tout ce qui était technique, et j'ai travaillé longtemps à raison de presque un cours par jour pendant un certain nombre d'années. Je rejoins Véronica sur l'argile, sur un désir qui est très très fort, et on finit par de former l'argile et puis reformer. Et je suis restée à Londres parce que je crois que j'aime énormément être expatriée, être étrangère. Je crois qu'artistiquement, ne pas être chez moi, ne pas être dans mon pays, ne jamais trop comprendre ce qui se passe ou comprendre mais sans vraiment comprendre, rencontrer des gens qui sont étrangers à moi. Je crois qu'artistiquement, ça me convient énormément. Et puis à Londres, il y a ce multiculturalisme, et il y a, je veux dire, la comédie musicale peut rencontrer l'opéra, l'opéra peut rencontrer le jazz. Il n'y a absolument aucune porte entre les genres. Et ça, ça a été une énorme grâce. Enfin, je suis devenue l'artiste que je suis devenue grâce à Londres. Pour ça, je suis très, très reconnaissante à cette ville.
C'est moins cloisonné qu'en France, c'est sûr.
On a découvert un peu au détour de nos conversations que finalement, vous avez un peu des parcours à la fois parallèles, mais à la fois croisés. Et donc, parlez-nous peut-être un petit peu toutes les deux de vos différents projets, peut-être des différentes expériences que vous avez eues de collaboration avec d'autres artistes, un peu sur comment votre carrière s'est orientée. Et il y a des choses un peu amusantes. Si vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre vie professionnelle de chanteuse, peut-être.
Alors moi, je veux dire que dans ma, ce que j'adore, c'est effectivement ce que je vous disais au début, les collaborations. J'aime beaucoup. Je crois qu'une de mes, enfin, quelque chose que j'adore, c'est de collaborer avec justement des artistes qui viennent pas du même monde musical que moi. Et ça, j'essaie de privilégier ce genre de rencontres artistiques parce que je trouve que c'est toujours extrêmement enrichissant de pouvoir créer hors de son monde quelque part, de faire rencontrer ces deux mondes. Et c'est quelque chose que je privilégie. Alors, mes dernières collaborations, là, en ce moment, je travaille beaucoup avec Mathilde Limal, qui est une chanteuse aussi et guitariste, qui était avec moi au conservatoire à Paris. On s'est complètement perdu de vue pendant 15 ans et on s'est retrouvés, merci les réseaux sociaux, par hasard. Et puis, on a décidé de travailler ensemble. Et il se trouve qu'on partage toutes les deux ce goût de l'éclectisme musical, c'est-à-dire qu'on va mélanger dans un même programme du classique, de l'opéra, de la chanson française, de la folk, et qu'on arrange tout ça toutes les deux, et je joue du piano, je chante, et elle fait de la guitare et elle chante. On a deux tournées par an, enfin on fait pas mal de concerts, beaucoup l'été et beaucoup l'hiver, et ça c'est un de mes grands projets. Et puis je travaille beaucoup aussi, enfin là je travaille sur un album qui sortira en janvier 2023 et dont les singles vont sortir à partir du mois de mai chaque mois, et ça, même chose, ça se veut assez éclectique. Je travaille dans un studio assez pop qui appartient d'ailleurs au studio de Ruby Williams, donc avec des ingénieurs du son qui sont beaucoup dans le monde de la pop, avec qui on peut vraiment créer un autre son, dépoussiérer, avoir des idées. Ça me passionne. Et puis oui, dès que je peux travailler avec des artistes qui ne sont pas dans le monde classique, j'essaie de privilégier ces rencontres-là.
Tout en faisant des petites piges pour des chœurs français à Londres.
c'était pas des piges d'ailleurs, c'était des rencontres. Et ça, c'est exactement, c'est assez merveilleux. Oui, je fais encore des concerts classiques. J'en fais la fin avril, puis à Toulouse, en mois de mai. Mais c'est le grand plaisir de faire des concerts classiques quand on ne fait pas que des concerts classiques. Mais faire des concerts classiques, c'est revenir à la maison. Il y a quelque chose d'infiniment magique là-dedans. L'orchestre, la vibration pure, c'est magnifique. C'est une grande, grande grâce de la vie, ça aussi.
Et Véronica, si tu veux nous en dire un peu plus du coup sur tes types de collaborations et tes projets variés.
Alors les collaborations, ça a commencé d'abord à la maison avec mon Jérôme de Marie, Jérôme Royer, qui est aussi un de mes pianistes et qui lui est plutôt trempé dans l'improvisation et le jazz. Il arrange aussi, il est compositeur.
Donc affaire de famille quand même.
affaire de famille, ça continue, hein, ça continue. Et, mais il y a besoin pour garder la tête froide au sein du couple, d'aller voir ailleurs musicalement. Et du coup, j'aime bien...
Je comprends qu'il y ait eu la précision quand même.
Pour la paix des ménages.
Pour la paix des ménages, on a besoin de son espace. Et du coup, j'ai été un peu aussi gratouillée avec d'autres collaborations avec d'autres pianistes dans le classique. Et puis, moi, j'ai quand même, avec mon parcours dalcrozien, une approche au corps qui est assez forte, une approche au corps et une approche à l'improvisation. Et cette rencontre que j'avais faite très tôt dans ma vie, dans mon enfance, m'a rattrapée quelques années plus tard, ça doit faire 8-10 ans. J'ai fait la rencontre de Jenny Roditi, compositrice du nord de Londres, initiatrice du mouvement vocal Tai Chi. Donc ça montre vraiment, c'est vraiment le souffle, le corps, le son, comme une seule chose qui s'équilibre. Et elle a réuni un projet avec plein de chanteurs. Alors, tu aurais adoré, Judith, parce que je crois qu'elle a recruté, il y avait un qui faisait du métal, donc ses voix très, très graves de hard metal. Il y avait des chanteurs de comédie musicale, des chanteurs de musique ancienne, des classiques. dont je faisais partie, mais j'ai toujours chanté des choses de jazz. Alors, ce n'est pas le même instrument, ce n'est pas la même voix. On peut des fois se dire, mais ce n'est pas la même personne qui chante. Mmh. Mais c'est possible. Et elle a créé un chœur d'improvisateurs. Et sur des signals, elle nous faisait improviser des pièces complètes qui faisaient voyager. Alors, ça pouvait être des moments complètement avant-garde, musique contemporaine pure. Et d'autres moments, on était au fin fond des Balkans. Ou bien dans les steppes russes, ou transporter des siècles en arrière avec quelque chose de très, très, très primitif et très authentique, avec de la percussion de corps aussi. Enfin, c'était un parcours absolument hallucinant. Et ça a ouvert plein de portes, parce que j'avais connu l'improvisation dans la danse et dans le piano, parce que j'ai fait un petit peu de piano avec mon parcours dalcroze. Pas trop, juste assez. Et, et donc là, j'ai découvert avec le chant. Et du coup, j'ai complètement intégré ça dans mes choses plus classiques, ce qui fait que ça me ramène actuellement à mes collaborations. Là, je joue avec Jérôme Royer. On a des lunchtime concerts régulièrement dans la paroisse de notre quartier. Et je ne sais pas si c'est le moment de faire la promo.
Bah si, bah tout à fait, j'en profite.
Donc on a le prochain, le samedi 29 avril, à 1h de l'après-midi. On fait du Debussy, du Ravel, du Satie. On sera rejoint par une violoniste, Talia, pour quelques morceaux. Donc voilà, ça régulièrement, on se retrouve et on offre ça à la communauté. Et le but, en
fait... Comment s'appelle l'église, Véronique?
St. Andrew's Church à Alexandra Park Road à Muswell Hill.
Muswell Hill, ok.
Donc, c'est le
NTL. Nord de Londres.
Oui, ouais. Le nord de Londres. Ouais. Et pour aller dans le truc plus classique, je collabore avec Maya Irgalina, magnifique pianiste biélorusse avec laquelle j'ai aussi un concert. Alors, vu que j'ai ouvert la porte promo, j'y vais. Alors, avec Maya, on fera partie de la série des concerts Hidden Gem à St. Mary le Strand le mercredi 26 avril à 19h30.
Ça, c'est au centre, vraiment au centre de Londres.
Oui, tout à fait. Centre de Londres. Donc ça, c'est tout ce que je fais un peu classique, mais alors orienté mélodie française et jeu scénique plutôt café-théâtre. C'est ce qui me branche tellement. Et en fait, ça me branche tellement que j'ai un projet qui devrait voir le jour et qui devrait devenir plus public, mais peut-être avec cette émission. je me prépare à travailler avec une directrice de théâtre qui s'appelle Katia Ogorodnikova, qui est basée à Quimper et qui a flashé sur ma manière de chanter et de jouer les mélodies de forêt, de poulingue, etc. Et du coup, avec Katia et Maya, on prépare une résidence cet été et des dates dans la région de Quimper. Finger crossed. Donc voilà. Mais les gens que ça intéresse, s'ils veulent me suivre sur les réseaux, il y aura plein de choses qui vont sortir à ce niveau-là.
C'est intéressant quand même parce que vous êtes toutes les deux quand même toujours avec un pied en France pour vos représentations, vos collaborations. C'est sympa.
Moi, oui.
Moi, c'est nouveau. Ah, moi, oui, c'est tout à fait nouveau. Ouais.
C'est assez nouveau pour moi aussi, d'ailleurs, depuis post-Covid.
D'accord.
Je mets un grand pied en France. Oui.
Un élargissement de vos horizons.
Oui.
Et du coup, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais, Véronica, parce que ça fait une transition sur une des questions que j'avais pour vous, qui est un aspect peut-être un petit peu plus technique du chant, mais ça rejoint un peu tout dans son ensemble. Ce serait intéressant que vous nous parliez un petit peu des challenges et des différentes exigences pour un chanteur pour aborder les différents types de répertoires, et que ce soit d'un point de vue d'expression vocale, verbale, et d'un point de vue plus technique, est-ce que la base technique est la même en fait pour tous les styles ? Donc par exemple, la mélodie française, le baroque, le lieder allemand, le folk, etc. Vous pouvez nous en dire un peu plus peut-être, Judith ?
Bah, je trouve déjà que c'est pas... Enfin, oui, moi j'aime bien plutôt de parler d'état émotionnel. C'est-à-dire que si on chante un lied allemand ou déjà une mélodie française... Les couleurs émotionnelles sont pas les mêmes, le ton n'est pas le même, et de fait, la technique va s'ajuster. Je crois que si on chante une chanson folk, il y a un tel désir d'authenticité, de parole, que les paroles passent, de simplicité, que forcément le geste opératique est beaucoup plus soulevé qu'il se veut en projection, va forcément s'adapter aussi. Je crois que, et ça c'est tout, parce que ça c'est ça qui est magnifique dans le chant, c'est que tout ce qui est technique c'est tellement individuel, intime, subjectif, et qui est vraiment le fruit d'un parcours finalement, de choix artistiques, moi c'est vrai que c'est pas, y a des choses techniques, c'est-à-dire que je vais pas dans un même concert passer tout de suite d'un air opératique à une chanson folk, je ne vais pas faire du Johnny Cash et du Puccini tout de suite après.
Il faudrait une transition.
Même d'un point de vue émotionnel. Le corps met du temps à passer d'une émotion à l'autre. Donc, je crois que le geste du chant, c'est de savoir qu'on ne peut pas tout ouvrir et tout fermer d'un coup. Il y a quelque chose de beaucoup plus subtil dans l'expression, dans l'authenticité de l'expression d'ailleurs. C'est ça qui me passionne dans la technique. Sinon, peut-être que Véronica, toi, tu as des...
Oui, moi, je t'ai vu, Véronica, donc en récital récemment, là, il y a quelques semaines. Et j'étais hyper impressionnée, en fait, par ton jeu scénique, par ta présence scénique, etc. J'ai adoré ce que tu faisais. Donc, dis-nous-en peut-être un petit peu plus sur comment, toi, tu vois, justement, cette forme d'expression.
Merci. Je reviens à ce que je disais au tout début, cette connexion avec les gens. Finalement, on se retrouve à avoir un certain pouvoir pour faire passer une émotion, pour faire passer une histoire. Et tout à l'heure, Blandine, tu mentionnais l'espèce de connexion aussi avec chaque instrumentiste quand on chante dans un orchestre et le chœur, tous les gens du chœur, si on chante avec un chœur. Mais pour moi, il y a aussi une connexion à travers le temps et à travers les âges. Heureusement, on a plein de musicologues qui essayent de comprendre comment tel ou tel style de musique devrait sonner, devrait... Mais malheureusement, mes enregistrements de Mozart lui-même ne sont pas très bons, donc on revient à devoir aller piocher au fond de soi, de son intuition. Et du coup, dans cette connexion, dans le spectacle vivant, il y a aussi cette connexion à travers le temps. Je plaisantais sur Mozart, mais on n'a pas l'occasion de, souvent les chanteurs classiques, d'avoir le feedback du compositeur. Ce que je trouve très dommage d'ailleurs. J'aimerais bien des fois avoir un petit entretien.
Ça serait peut-être un petit peu compliqué.
Oui, pour la comprendre. Pour dire, mais pourquoi là et pas là? La respiration, là et pas là.
Oui.
Mais, Mais du coup, ça, c'est une connexion en plus. Donc, il y a le public, il y a les musiciens avec qui on collabore et il y a le compositeur quelque part. Et ça, je trouve magnifique. Et ouais, c'est aussi pour ça que je fais de la musique ancienne latino-américaine. Mais ça, c'est peut-être un autre chapitre.
Je t'allais dire, on pourrait parler toute la nuit. Il y a tellement de questions qui nous restaient à vous poser, tellement d'autres choses à découvrir. Il faudra que vous reveniez au studio, je pense.
Un second volet de Charon et Chaconne.
Oui, exactement, duo de choc. Donc, vous êtes toutes les deux, de toutes les façons, sur Facebook, il me semble. Donc, voilà. Si les gens veulent vous suivre, ils peuvent y aller.
Facebook, Instagram, pas mal pour les chanteurs aussi.
Et Instagram, donc on mettra tous les détails. On vous remercie infiniment d'être passé dans notre studio virtuel et on viendra vous voir très prochainement.
Merci à vous.
Merci, merci.
À très bientôt et merci.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.